L'éternel règne. On l'a chanté. Et ce n'était pas que des paroles en l'air ou un vœu pieux. Et pourtant, comme je l'ai déjà dit, il y a du déjà et du pas encore. Tous les genoux ne fléchissent pas encore devant le Seigneur. Toutes les langues ne confessent pas encore que Jésus est Seigneur. Nous avons donc aussi hâte que son royaume soit pleinement établi. Ce qui ne se fera qu'à la fin des temps, dans une terre et des cieux renouvelés. Mais en même temps, oui, déjà, le royaume de Dieu est là, bel et bien là, présent. Et j'espère que nous nous en réjouissons. Si tu mets la première. Quelques versets au début de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » Autre traduction, « Le royaume de Dieu est proche. » Autre traduction, « Le règne de Dieu est proche. » Diverses nuances dans nos traductions, « royaume de Dieu » ou « règne de Dieu ». Et de ce point de vue vocabulaire, les mots « royaume »,« royauté » ou « règne », qui en français ont des significations un peu différentes, sont en grec un seul et même mot, ce qui explique les différentes traductions. Les traducteurs doivent faire un choix pour ne pas faire des phrases à rallonge, bien que l'original a peut-être, en l'occurrence, un sens plus vaste et inclut peut-être ces trois possibilités. Personnellement, j'ai une préférence pour la traduction « règne » qui fait moins penser à une entité politique ou géographique que « royaume ». Car Jésus dira plus tard à Ponce Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde » ou « Ma royauté n'est pas de ce monde » pour signifier que son règne est spirituel avant d'être temporel. Nous devons souvent, et en l'occurrence, c'est le cas pour ce sujet, sortir peut-être de nos schémas de pensée humains. Mais retenons surtout cette vérité. Le royaume de Dieu est avant tout là où Dieu règne. Le royaume de Dieu est là où Dieu règne. Le royaume de Dieu est là où sa volonté est accomplie, rajoute le dictionnaire biblique. Je vous embête un peu encore avec le grec, pas pour étaler ma faible science, mais pour aider, j'espère, à mieux comprendre le texte biblique. C'est mon but en tout cas, de nous émerveiller encore plus de sa richesse et du trésor inestimable et inépuisable qu'est l'Évangile. D'un point de vue conjugaison, en français, on a l'imparfait pour exprimer l'idée d'une action durable ou répétée, mais finie dans le passé. On a le passé simple pour une action brève ou ponctuelle, mais finie dans le passé. Et on a le présent pour une action actuelle. Eh bien, en grec, il existe aussi le parfait, qui sert à exprimer l'effet actuel d'une action passée achevée. Et c'est en fait le temps du verbe de notre verset, ce qui explique aussi pourquoi certaines traductions disent, en parlant du règne ou royaume de Dieu, qu'il est proche, ou plutôt qu'il s'est approché. Le passé composé peut des fois exprimer un peu ça, mais pas aussi bien, je trouve. Pour pleinement retransmettre la teneur de la conjugaison grecque, je pense qu'il faudrait dire « Le règne et royaume de Dieu s'est approché et par conséquent, il est donc proche. » Ça alourdit un peu la phrase, mais ça l'enrichit aussi en mettant vraiment l'accent sur la réalité qui est là. Jésus donnera aussi d'autres précisions sur ce sujet dans des échanges avec les gens, en particulier en Luc 17, en disant « Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu est au milieu de vous. encore selon la traduction. Et pour le coup, le verbe est bel et bien au présent. Il est au milieu de vous. Jésus ne parle pas là d'un événement futur et encore moins lointain. Mais quel est donc ce règne dont Jésus parle ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est au milieu des gens à qui Jésus parle ? Bien sûr, vous l'aurez compris, au milieu d'eux, il y a Jésus. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est avant tout lui. Ça fait un peu bizarre de le dire ainsi, mais oui, Jésus est le royaume de Dieu personnifié. Il y a bien sûr d'autres aspects ou facettes ou phases du royaume de Dieu qui sont développées dans d'autres passages de l'Écriture. La notion est vaste. Mais ici, dans les évangiles, en tout cas, surtout, Jésus personnifie le règne de Dieu et le royaume de Dieu. Jésus-Christ, homme sans péché, est celui en lequel et par lequel Dieu règne parfaitement. En la personne de Jésus, Dieu fait chair, le royaume de Dieu s'est effectivement approché, et il est là, face à ses interlocuteurs, qui n'arrivent pas encore à le comprendre. Jésus est né et venu sur terre. Action passée achevée. Au moment où Jésus parle à ses disciples, le règne de Dieu est on ne peut plus proche, puisqu'il est incarné devant eux. Effet alors présent, très présent même de cette action. Et pour le coup, le temps grec du verbe porte bien son nom. C'est parfait. C'est parfait. L'effet de cette action a-t-il cessé ? L'ascension de Christ, son départ physique de cette terre, a de fait modifié certaines choses, mais a-t-elle fait cesser la réalité de l'effet de sa venue ? Non. L'effet est bel et bien toujours présent aujourd'hui. D'un côté, parce qu'il est toujours temps de grâce en Jésus-Christ, toujours aujourd'hui. L'accès au royaume est toujours ouvert. Et merci Seigneur. Ça marche pas, tu mets la 3. Et d'un autre côté, parce que chaque chrétien aujourd'hui, chaque chrétien jusqu'à aujourd'hui personnifie aussi le règne de Dieu et le royaume de Dieu. Chaque chrétien personnifie le règne de Dieu et le royaume de Dieu. On voit qu'il commence à croiser les bras. Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré ? Ou que c'est une vérité biblique ? Privilège ou lourd fardeau ? Vous connaissez sans doute ce passage qui raconte l'entrevue nocturne de Nicodème avec Jésus. J'en cite quelques versets dans Jean chapitre 3. Nicodème va le trouver de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » D'autres traductions diront « le royaume de Dieu ». Nicodème lui demanda « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Quelqu'un ici est-il, ou est-elle, né de nouveau ? Un, yes ! Encore du boulot, alors. Quelqu'un est-il ici spirituellement passé de la mort à la vie, naissant ainsi à une vie nouvelle ? Vie nouvelle en communion avec Dieu par Jésus-Christ ? 2, 3, ça monte. C'est pas les enchères, hein, mais... Toute personne, on le sait, qui a reconnu que Jésus-Christ était son sauveur personnel, peut voir, et même a vu, voit, le règne de Dieu. Ses yeux spirituels se sont ouverts. Toute personne née du Saint-Esprit, donc toute personne née de nouveau, ce qui est bien sûr la même chose, peut entrer, et même est entrée dans le royaume de Dieu. Et ainsi, dans un certain parallèle avec ce que j'ai dit précédemment concernant Jésus, et même un parallèle certain avec toute l'humilité qu'il faut bien sûr associer à cela, et toute la reconnaissance de la pure grâce qu'il a rendue possible, nous personnifions aussi le règne et le royaume de Dieu. Bien sûr, cette façon d'exprimer ce qu'est le royaume de Dieu n'est pas nécessairement la première, mais elle existe bel et bien. Et il nous faut, je pense, aussi nous l'approprier. Un verset de l'Apocalypse le confirme. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Qui a fait de nous un royaume. Des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Jésus a fait de nous un royaume. Pas juste les membres de son royaume, même si c'est vrai aussi. Un royaume et pas n'importe lequel. Quel autre royaume cela pourrait-il être, sinon le royaume de Dieu ? Oui. Nous sommes le royaume de Dieu, une partie en tout cas, car nous sommes là où Dieu règne. Dieu règne en nous, non ? On l'a chanté en tout cas. Là où Dieu règne, c'est à la fois l'univers et nos petites vies aussi. Nos petites vies aussi. On a peut-être un peu de mal à affirmer ce genre de choses, n'est-ce pas ? Mais combien même nos petites vies ne sont de fait pas encore saintes et parfaites, nous appelons Jésus Seigneur de tout notre cœur, avec toute la sincérité qui nous est possible en tout cas. Alors oui, Jésus est Seigneur et il règne. C'est la définition même d'un Seigneur, il règne sur nous, en nous. Nous sommes son royaume. Le chrétien, je demeure en lui. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est roi, et là où le roi est présent, là est son royaume. En tout cas, vrai pour Jésus. Il ne va pas juste faire du tourisme dans un autre royaume. Il établit son royaume là où il est. Et nous confessons, nous professons qu'il est roi, notre roi. Cet aspect du royaume est un domaine dans lequel les disciples de Jésus sont déjà entrés. C'est le déjà. Combien même au fil de la sanctification, nous grandirons encore dans cette réalité. Il y a du pas encore. Tu mets la 5. Ceux qui se soumettent au règne de Dieu peuvent déjà expérimenter cela dans leur vie. Numéro 5. Après être entrés par la repentance et la foi dans le royaume de Dieu, nous pouvons jouir réellement et déjà du royaume de Dieu, du privilège de son règne, du bénéfice de ses préceptes et de ses lois, même si notre vieille nature peut des fois les trouver contraignantes, ces lois. Elles sont pourtant, on le sait, vérité et vie pour nous. Réellement et déjà, mais aussi partiellement et donc pas encore pleinement dans ce royaume déchu, avec ce corps de mort, comme dira l'apôtre Paul. Mais déjà, nous personnifions le règne de Dieu et le royaume de Dieu ici et maintenant. Évidemment, et bien heureusement, on l'a dit, il y a un aspect futur du royaume, une dimension à venir, la plus belle, la plus parfaite, la plus aboutie. Ce sera quand Dieu mettra un terme à l'histoire de l'humanité, et que Jésus reviendra établir son règne sur la terre. Cette réalité ultime du royaume n'est pas encore, mais elle approche, elle s'approche. On a pu l'aborder un peu plus en détail en étudiant le livre de l'Apocalypse l'année dernière, et nous y reviendrons peut-être une autre fois dans une prédication. Mais pour l'instant, je propose de nous limiter à aujourd'hui et au maintenant. Être et vivre le royaume et le règne de Dieu. Après la théorie et la pratique, il y a bien sûr de nombreux angles d'attaque possibles à cette réflexion. Être et vivre le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça change ? Comment faire avancer le royaume de Dieu là où j'en suis, c'est-à-dire en moi, et là où je suis, c'est-à-dire autour de moi ? Comment faire avancer le royaume de Dieu ? Nul doute que c'est une aspiration profonde pour nous. Si ce n'est pas le cas, alors comprenons que ce doit être une de nos aspirations profondes. L'unique question que je nous pose ce matin, si vous auriez préféré d'autres questions, vous pouvez me dire, on pourra échanger là-dessus. Hop, je ne sais plus où j'en suis. Ah, voilà. Celle qui m'est venue à l'esprit, la première, c'est « Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu ?» Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu ? Sinon, pourquoi ce n'est pas le cas ? Ben, ça fait déjà deux questions. Bon, je n'ai pas réussi à me limiter qu'à une seule. On a chanté et prié tout à l'heure. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu par ce que je suis ? Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu par ce que je pense ? Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu par ce que je regarde ? Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu par ce que je dis ? Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu par ce que je fais ? Ça se décline plein de sous-questions. Parce qu'en moyenne, entre 97 et 98%, sinon 99% de notre temps se passe en dehors de l'Église, en dehors de ce bâtiment, selon les réunions communautaires auxquelles vous participez, la réunion de semaine et le culte, ou seulement le culte, ou rien du tout, alors la considération principale de notre réflexion devrait logiquement porter sur ce temps en dehors. C'est ce qu'on fera, mais seulement les prochaines fois, par deux autres prédications que j'apporterai début décembre, et où on considérera en particulier les quatre sphères ou réseaux relationnels principaux dans lesquels nous sommes en général impliqués, avec des variations bien sûr selon nos situations personnelles, à savoir la famille, le travail ou les études, le voisinage, ou les loisirs et les amis. Mais ce matin, je considère les 2% environ de notre temps. On pourrait se dire, mais c'est stupide. Parce que ce n'est qu'une infime partie de nos vies, la petite partie émergée de l'iceberg. On ne va pas toujours travailler ce truc-là. Hein. Tu mets la 6. On pourrait se dire ça, mais en tant que pasteur, je suis utopiste, ou j'ai la foi peut-être, selon les points de vue. Et je crois que l'Église et les réunions d'Église ont entre autres objectifs et priorités de nous équiper, de nous former, de nous édifier les uns les autres. Est-ce une folle utopie ? C'est un des rôles de l'Église, en tout cas, je crois. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours une réalité, pour des tas de raisons, et souvent de mauvaises raisons. Mais oui, je crois à des objectifs et priorités de Dieu en inventant l'Église. Un de ses commandements même, c'est de nous équiper, de nous former, de nous édifier les uns les autres. Élément essentiel pour cela, on le sait, la parole, la prière, la communion fraternelle. Le livre des Actes y a aussi mis la fraction du pain, parmi les quatre éléments qui étaient pratiqués couramment par l'Église à Jérusalem. L'Église rassemblée doit être le lieu de formation et le lieu d'apprentissage pour nous permettre à chacun et chacune de vivre et de partager l'Évangile lorsque l'Église est dispersée, en dehors des temps communautaires. Alors faisons cela, soyons conscients et intentionnels en cela. L'Église. Avec tristesse, Nordine exposait à la pastorale qui a eu lieu début de semaine passée la situation d'une église en soins palliatifs spirituels, disait-il. Passée en quelques années de 80 personnes à 12, suite à des querelles dignes de la cour de récréation de maternelle, disait-il. Ça fait sourire, mais c'est dramatique, c'est triste, c'est tellement affligeant. Satan, le calomniateur, le diviseur, le destructeur, fait son mauvais boulot. Mais des fois, on n'a pas vraiment besoin de lui. On se débrouille très bien tout seul. Alors vigilance. Vigilance et refuge dans le Seigneur. Filtrage par le Seigneur de toutes choses, pensées, paroles, actions. Il faut longtemps pour construire. Il ne faut pas longtemps pour détruire. Nous sommes Église. Et cette petite partie locale du vaste royaume de Dieu est l'école de la vie chrétienne. En tout cas, je crois. Apprendre quand nous sommes rassemblés pour les temps où nous sommes dispersés. Lorsque l'Église est rassemblée, elle est pour s'édifier et se former les uns les autres. Non, 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 diront peut-être certains. L'Église se rassemble avant tout et premièrement pour louer Dieu, pour l'adorer, le glorifier, être en communion avec lui. C'est exact. Je suis entièrement d'accord. Mais nous ne louons pas Dieu, nous n'adorons pas Dieu et ne nous glorifions pas Dieu. Nous ne sommes pas dans la meilleure communion avec lui si nous ne le sommes pas les uns avec les autres ici présents ou absents également. Si nous ne pensons pas aux uns et aux autres, si nous ne sommes pas en paix avec tous et avec chacun. Jésus, dit, notre roi, disait, en Matthieu chapitre 5, « Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. » Ça ne concerne bien sûr pas que les offrandes de tourterelles, d'agneaux ou de taureaux, que Jésus a d'ailleurs abolies. Pas seulement l'offrande des prémices des récoltes ou l'offrande financière. Peut-être de façon un peu sévère, mais dans la logique de ces paroles, je dirais que notre offrande de louange, notre offrande d'adoration ou notre offrande de prière ne servent à rien. Nous ne sommes même peut-être pas vraiment agréables à Dieu si ça coince d'une façon ou d'une autre avec un frère ou une sœur de l'Église. Est-ce visible que je suis royaume de Dieu ? Alors je pardonne et je demande pardon. J'aime comme je suis aimé, par Dieu en tout cas. C'est à son niveau à lui qu'il demande d'être, qu'il demande que nous soyons. Le règne de Dieu est en effet avant toute chose règne d'amour et de pardon. Évidemment, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit en nous, Christ régnant sur nous, nous dit que c'est ça que nous devons vivre, que c'est ça que nous pouvons vivre par sa grâce, en Église premièrement. Si l'amour et le pardon, si la grâce ne se vivent pas premièrement dans l'Église, mais où les vivra-t-on alors ? Où les vivra-t-on alors ? Et c'est fort de cette expérience, de cette formation concrète et pratique les uns avec les autres, que l'on pourra alors être royaume dans le monde, au milieu des loups et des méchants. L'Église, normalement, c'est un ensemble de brebis sympathiques. On m'a demandé de donner plus de pratico-pratique dans les messages. Je pense que là, il y a de quoi faire du pratico-pratique. Pas facile pourtant de me mettre dans les baskets de chacun et chacune d'entre vous pour dire plus que des choses générales que vous avez vous-même à décliner selon vos situations, circonstances, environnements. En tout cas, je ne voudrais en aucun cas être donneur de leçons parce que je suis moi-même le premier repris, parce que je peux dire. Mais quels sont vos défis? Quelles sont vos difficultés? Quelles sont vos réussites ou accomplissements? Comment peut-on s'aider mutuellement? Comment puis-je vous aider? Comment pouvez-vous m'aider? Comment l'Église peut-elle aider? Que peut-on ou doit-on mettre en place pour cela? Vos bonnes idées sont les bienvenues. Et je reviens à mon unique question de tout à l'heure. Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu? Par exemple, par ce que je dis dans l'Église. Dire à l'image de mon roi. Un peu naïvement, moi je crois que l'on peut tout dire. Tout dire, mais à une condition, que ce soit pour édifier. Impérativement pour édifier. Sinon, ce n'est pas la peine. Si vous voulez dire quelque chose, mais que ce n'est pas édifiant, ce n'est pas la peine de le dire. Ça ne servira à rien, ça ne sera pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Il nous faut donc systématiquement nous poser la question. Quelle est mon intention? Quelle est ma motivation dans ce que je veux dire? Est-ce pour édifier ou juste pour régler des comptes? Est-ce pour encourager ou pour montrer que j'ai raison? Est-ce pour construire ou pour critiquer, dans le mauvais sens du terme? Évidemment qu'il ne s'agit pas de dire des belles choses si elles ne sont pas vérités. Non aux paroles flatteuses ou hypocrites, ça n'édifie pas non plus. On peut exprimer un souci, un questionnement, pointer un problème ou un malaise, une carence ou une déficience. On peut même dénoncer un péché. C'est notre liberté en Christ. C'est même notre devoir en Christ, car nous devons être vérité. Jésus a dénoncé le péché, mais il l'a toujours fait dans le but d'édifier, dans le but d'aider la personne, dans le but de l'aider à comprendre, à s'en repentir, à changer, à être réconcilié. Comptez le nombre de reproches qu'a fait le père du fils prodigue quand il est revenu. Une longue liste. Il l'a accueilli à bras ouverts. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ce besoin d'introspection, de demande de pardon, etc. Ça fait partie de la redevabilité fraternelle, de l'assistance fraternelle. Mais dans quel but veut-on le faire? Avec quelle intention? D'abord, passer toute parole à ce filtre-là. Qu'aurait dit ou pas dit Jésus à ma place? Deuxième et dernier filtre, je n'ai pas encore réussi à n'avoir qu'une condition en fait, j'ai une deuxième condition, c'est sur la forme, la façon de le dire. Si toutes les vérités sont bonnes à dire, toutes les façons de le dire ne sont pas bonnes. Et je reprends là un de mes versets favoris, déjà dit et redit par le passé, et vous l'entendrez encore. Ne dites pas la parole que vous voulez dire pour édifier, sauf si vous la dites avec amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Il y a beaucoup de vérifications à faire avant de la dire. Mais sinon, ce n'est pas la peine. Peut-être qu'il faut attendre un peu, que la colère descende, qu'on ait pris un peu du recul, qu'on ait pris du conseil ici ou là. Et réciproquement, je m'engage. Je m'engage parce que je suis royaume de Dieu, moi aussi, à demander au Seigneur, régnant en moi, de la recevoir. Avec quoi? Avec amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et pardon quand ça n'a pas toujours été le cas. Mais je vous garantis que si on fait ça, si on fait attention à ça, systématiquement comme ça, alors il fera bon vivre l'Église. Il fera bon vivre l'Église. Ça encouragera, ça édifiera. Nous grandirons en Christ et nous serons vraiment et concrètement royaume de Dieu. Et ça attirera à Christ par l'exemple. Et nous serons petit à petit équipés pour affronter le monde pendant les autres 97 à 99% de notre temps. Oui, je le crois, l'Église rassemblée doit être le lieu de formation et le lieu d'apprentissage pour nous permettre à chacun et chacune de vivre et partager l'Évangile lorsque l'Église est dispersée. Comment peut-on s'aider mutuellement? Comment puis-je vous aider? Comment pouvez-vous m'aider? Comment l'Église peut-elle aider? Identifions les problèmes ou problématiques et cherchons des solutions. Pour être concret, et c'est sur cette base-là que je n'ai aucun souci à ce que l'on fasse un feedback, un retour de vos avis et points de vue, même me concernant. C'est pour ça qu'on a encore envoyé un questionnaire me concernant. La forme n'est peut-être pas la mieux, les questions ne sont peut-être pas optimales. C'est pas grave. L'essentiel, c'est la liberté de dire et que ce qui est dit soit dit avec, vous savez quoi. Pour moi, pas d'inquisition là-dedans, pas de jugement là-dedans, selon l'intention que vous y avez mise. Si c'est pour édifier, guidé par le Saint-Esprit, alors merci. J'ai des qualités, j'ai des défauts, des points forts, des carences. Il y a des choses que je fais bien, j'espère. Des choses que je ne fais pas bien ou pas assez. Certaines que je n'ai même pas pensé, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Pas grave de le dire, pas grave de me le dire. Pourvu qu'ensuite on réfléchisse ensemble pour voir comment on peut faire dans un souci d'édification, édification personnelle, édification communautaire. Un point fort, ok. Comment on l'encourage ? Une faiblesse, une carence, ok. Comment on aide? Comment on soutient? On prie? Comment on pallie? Comment on conseille? Comment on s'engage? Certains trouvent peut-être ces partages insupportables. Je crois que c'est certainement un défi, un vrai défi. Un risque. Mais est-ce réellement quelque chose d'impossible à vivre en Église, royaume de Dieu? Moi, je dis que c'est possible, dans ma naïveté et mon utopie que vous connaissez. Parce que nous sommes royaume de Dieu. Parce que nous sommes là où Dieu règne. Oui, Seigneur, règne en nous, en particulier dans nos rapports mutuels, dans nos rapports fraternels. On le retourne et je suis toujours pas rapide et on m'engueule aussi que je suis un peu long. À juste titre, il y a tellement de choses à dire. Donc on va... Si je veux quand même le dire, tant pis. Si tu mets la... C'est la 10, celle-là, c'est la dernière. Ouais. Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu ? Par ce que je fais dans l'Église, faire à l'image de mon roi. Et pour du pratique, l'ultra basique. Est-ce que j'ai salué tout le monde en arrivant ce matin? Alors tous ceux qui sont arrivés en retard vont peut-être décaler leurs horaires la prochaine fois pour avoir le temps de saluer les gens avant, mais sinon vous avez le temps aussi de le faire après. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, commandé Paul aux Romains et aux Corinthiens, et Pierre aussi aux chrétiens d'Asie par un baiser d'affection, a-t-il précisé. C'est pas très Covid compatible ou autre, mais pour des raisons sanitaires, le baiser n'est pas indispensable, obligatoire. Mais l'affection, oui. L'affection, oui. Et la démonstration et la manifestation de cette affection, oui. Peut-être n'y pensez-vous pas, parce que préoccupé par d'autres choses, en souffrance, ou parce que trop indifférent aux autres, ou trop égocentré. Peut-être ne le voulez-vous pas, consciemment ou inconsciemment. Peut-être le faites-vous, mais hypocritement, par simple politesse, mais le cœur n'y est pas. Je vais regarder personne, pas de problème. Peut-être pensez-vous qu'avoir de bonnes raisons de ne pas le faire, par rétorsion envers ceux qui ne le font pas envers vous. En cette chose, on ne peut plus banale, est-ce visible que je suis au royaume de Dieu ? Est-ce visible que Jésus règne en moi ? Comment aurait-il agi ou réagi à ma place ? Et là encore, comment peut-on s'aider mutuellement ? Comment puis-je vous aider ? Comment pouvez-vous m'aider ? Plaçons-nous constamment devant le Seigneur. Examinons nos intentions et motivations, toutes choses, à la lumière de ce que Jésus, notre Seigneur, aurait fait. Et pour conclure, je partage juste un sujet de prière reçu hier qui illustre cet état d'esprit, je pense, cette conscience d'être, de vouloir être royaume de Dieu à l'image de notre roi. C'est l'église de Château-Arnaud qui l'a envoyé, une église sœur de l'association qui est dans les Alpes de Haute-Provence. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un jeune homme, fils psychologiquement instable, qui habite sur la place où se situe l'église, a cassé une de nos grandes vitrines et a laissé des tags sur les murs et les vitrines de l'église. Que le Seigneur utilise ces événements désagréables pour sa gloire, en augmentant notre confiance en lui et en se servant de notre attitude pour toucher le quartier. Que Dieu se serve de notre attitude pour toucher le quartier. Belle prière, je trouve, dire et faire, réagir en disciple de Christ. Dire et faire selon le règne de Dieu. Nous y aide jour après jour. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, à la fois je me réjouis d'être ton royaume, d'être là où tu règnes. Et en même temps, ça oblige des fois à tant de changements que je n'y suis pas toujours prêt. Merci pour ton amour, ton pardon, ta grâce, ta bienveillance qui petit à petit me montre ce que tu voudrais changer. Aide-moi, Seigneur, aide-nous en Église, à vouloir changer à ta ressemblance, te laisser nous transformer, pour que nous soyons vraiment royaume de Dieu les uns pour les autres, les uns avec les autres, pour pouvoir effectivement nous équiper, nous former, et ensuite vraiment briller là où tu nous places dans nos différentes sphères du quotidien, dans le monde. Merci de ton aide, Seigneur. Merci de ton aide. Merci de ta grâce. Je demande vraiment ta bénédiction sur chacun et chacune d'entre nous ici présents. Ta grâce, ton aide, ton renouveau. Merci de nous fortifier, oui, et de nous renouveler par ton esprit agissant en nous. Pour ta gloire et ta seule gloire, en Jésus-Christ. Amen.